de découvrir ce qui s'est passé, plus que pour une affaire ordinaire.
Peut-être.
Bon sang, elle apparaît dans mes rêves, non? Chapitre 13. La pluie arriva sans prévenir, et lorsque Parrish et Radig atteignirent les abords de Williamsburg, elle martelait le toit de la voiture. Ils restèrent assis un moment, attendant qu'elle diminue.
On commence par l'école, exact? Demanda Radic.
Ouais, j'ai appelé le principal et il nous attend. Vous avez du neuf sur les amis de Danny Lange?
Danny Lange n'avait pas d'amis.
Parrish se tourna et fit face à Radic. Vous avez travaillé au stup, Jimmy.
Vous savez comment c'est. Les junkies sont une espèce à part. Leur addiction est plus forte que leur loyauté. Les amis, la famille, tout tombe aux oubliettes. La seule chose qui fera parler ses compadres ou ses associés, c'est l'argent.
Vous avez de l'argent?
Ne vous en faites pas pour ça, répondit Parrish.
À 11 h, ils descendirent de voiture et traversèrent la rue à la hâte. Ils se présentèrent à l'accueil, attendirent qu'on vienne les chercher, puis empruntèrent un dédale de couloirs bicolores jusqu'au bureau du principal. Celui-ci se leva à leur arrivée.
Frank Parrish, nous nous sommes parlé au téléphone.
Bien sûr.
Je vous présente mon équipier, Jimmy Radic.
Radic tendit la main. David Carlyle. Le principal fit le tour de son bureau. Je vous en prie, dit-il, asseyez-vous. Parrish posa les questions habituelles. Carlyle n'était pas sur la défensive. J'ai 600 élèves ici, inspecteur. Je fais tout mon possible pour suivre chacun d'entre eux, mais c'est tout simplement impossible 24 heures sur 24. Rebecca n'est pas venue en cours lundi matin.
Elle n'est pas venue lundi.
Exact. Elle était ici vendredi dernier, mais elle était absente lundi.
Et vous avez contacté sa tutrice? Demanda Radic.
J'ai peur que nous n'ayons manqué à nos obligations, inspecteur. Normalement, nous aurions dû l'appeler, mais nous ne l'avons pas fait. Nous avions deux enseignants en stage, nous avions des remplaçants. Carlyle secoua prudemment la tête.
Mais vous avez téléphoné mardi?
Demanda Parrish. C'est le père de Rebecca qui nous a téléphoné.
Son père?
Oui, répondit Carlyle. Son père a appelé le bureau des élèves mardi pour prévenir que Rebecca avait été malade lundi et qu'elle reviendrait mercredi. Puis plus tard dans la journée, nous avons reçu un appel de cette femme, Hélène Jarvis, qui a affirmé être la tutrice légale de Rebecca. Je n'ai pas dit à Mademoiselle Jarvis que le père de la jeune fille avait appelé, mais j'ai aussitôt contacté la police. Ils m'ont dit qu'ils étaient au courant et qu'ils attendaient que la tutrice remplisse un signalement de disparition. J'ai alors vérifié nos dossiers et découvert qu'Hélène Jarvis était enregistrée comme sa mère et non comme sa tutrice. Ce n'est pas si rare de nos jours d'avoir des mères et des filles qui portent des noms de famille différents.
Et avez-vous parlé à la police du coup de fil du père?
Oui. Radic prit note. Puis il leva les yeux vers Carlyle. Celui-ci commençait à comprendre que c'était beaucoup plus sérieux qu'une simple absence d'élève.
Elle n'est pas venue mardi parce qu'elle était déjà morte,
déclara Parrish d'un ton neutre. Nous pouvons supposer que c'est son assassin qui a téléphoné en se faisant passer pour son père afin que l'absence de Rebecca n'éveille pas immédiatement les soupçons.
Morte? Répéta Carlyle. Oh mon Dieu!
Elle est morte lundi, ajouta Parrish.
Oh tout Jésus!
Et la personne qui a appelé mardi en prétendant être son père n'était pas son père, poursuivit Radic. Nous devons savoir à qui vous avez parlé et à quel commissariat.
Oui, bien sûr. Oh, c'est terrible. C'est absolument terrible. Je ne sais pas quoi dire.
Il n'y a pas grand-chose à dire, monsieur Carlyle. Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez nous donner le nom de la personne à qui vous avez parlé au commissariat.
Oui, je crois qu'il s'appelait très vite. Je vérifie ça tout de suite.
Donc, elle quitte la maison à quoi? 7 h lundi matin? Elle vient à Brooklyn. Elle meurt entre 8 h et 14 h. Ça laisse une fenêtre plutôt étroite.
Mais suffisamment longtemps pour se faire couper les cheveux et se vernir les ongles. Ou plus probablement, pour que quelqu'un le fasse à sa place. Et ça a été fait à un endroit précis.
Et le frère? Parrish secoua la tête.
Il devait être mêlé à tout ça, sinon la coïncidence serait bien trop grande.
Très étrange.
Bon, nous avons quelques questions à poser au sergent Gary très vite, déclara Parrish, et il descendit de voiture.
Williamsburg, commissariat du 91e district, le même bâtiment monotone que des milliers d'autres commissariats.
Radik et Parish attendirent dans le hall pendant 20 bonnes minutes, puis très vite, parut dans l'escalier. Ils semblaient soupçonneux avant même qu'ils ne se présentent. Peut-être les prenaient-ils pour la police des polices. Qui ? Demanda-t-il. Rebecca Lange, 16 ans, lycée Saint-François d'Assise. Le principal vous a appelé mardi, un type nommé David Carlyle. Oui, et la tutrice de la fille aussi, ajouta très vite. Et vous lui avez dit d'attendre 48 heures.
Bien sûr, c'est la procédure standard.
Mais elle n'a jamais rappelé.
Je ne saurais vous dire, répondit très vite.
J'étais de repos hier.
La fille refait surface ?
Oui, répondit Parrish. Elle a refait surface morte.
Oh merde ! Lâcha très vite.
Et vous venez d'où ?
Brooklyn. Et en quoi ça vous concerne ?
Elle a été tuée dans notre quartier. Son frère aussi.
Eh bien, désolé de l'apprendre, dit très vite.
Je peux faire quelque chose pour vous ?
Non, répondit Parrish.
Nous en avons fini ici.
Radik les ramena à Brooklyn. Le gros de la pluie était passé. Les rues étaient trempées et glissantes.
Si le frère n'avait pas été tué, je dirais qu'il s'agit d'un enlèvement ordinaire, commenta Parrish.
Mais avec le frère,
ça signifie qu'il mouillait dans quelque chose. Si c'était le Danny Lange que je connais, alors il devait être question de drogue ou d'argent. Peut-être qu'il se servait de sa sœur. Ça tourne mal, elle se fait tuer, puis prend la fuite. Mais le type qui a étranglé sa sœur le rattrape, et tout est fini.
Mais pour le moment, ce ne sont que des hypothèses.
C'est toujours comme ça, mon ami, répondit Parrish. Toujours comme ça.
Chapitre 14.
Plus tard, après des heures et des heures à envisager l'affaire sous tous les angles, Parrish renvoya Radik chez lui. Puis il prit le métro jusqu'à son appartement, téléphona à Eve, tomba sur sa messagerie vocale. Ce qui signifiait qu'elle avait un client. À 21h, il avait vidé une bouteille de Bushmills et sorti en acheter une autre. À son retour, il regarda la télé. Songea à appeler Caitlin, mais se ravisa. Elle devinerait qu'il avait bu, lui ferait la morale pour son propre bien. Si c'était pour son propre bien, pourquoi se sentait-il si mal chaque fois qu'elle faisait ça? Il tenta de réfléchir au mobile de Rebecca, à ses habitudes, ses opportunités. Il se demanda ce qui lui avait pris de sécher les cours pour venir à Brooklyn. Il savait qu'il ne s'agissait pas simplement de son frère. Il savait qu'il y avait autre chose. Il s'endormit sur le canapé peu après 23h. Lorsqu'il se réveilla à 5h du matin passé, la télé était toujours allumée.
Chapitre 15. Vendredi 5 septembre 2008.
Alors qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle était impliquée dans quelque chose?
Son frère. Et le fait qu'elle n'est pas allée en cours et est venue ici à Brooklyn. Ça et son apparence. Ses ongles. Ses cheveux. Sa tutrice, cette Hélène Jarvis, affirme qu'elle ne portait jamais de vernis à ongles. Et que ses cheveux étaient longs, mais quand elle est morte, ils étaient courts. J'ai passé la soirée à réfléchir à ça. Et la seule idée qui m'est venue est que Danny avait pu la mettre en relation avec quelqu'un. Quelqu'un qui avait de l'argent. Peut-être qu'il l'utilisait d'une manière ou d'une autre.
Il aurait fait ça à sa propre sœur.
Vous ne connaissez pas les junkies.
Ok, mais pourquoi ne croyez-vous pas qu'elle a été enlevée?
Parce que les victimes d'enlèvement sont généralement ligotées et frappées. L'acte sexuel n'est pas consensuel, il est forcé. C'est un viol, et elle n'a pas été violée. Elle a eu un rapport sexuel, mais il n'y a aucun signe de violence physique. Rien indiquant qu'elle a été retenue contre sa volonté. La vérité, c'est que je ne sais pas quoi dire. Peut-être que c'était un amant plus âgé, un homme avec de l'argent. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait les moyens de lui payer une coupe de cheveux et une manucure.
Vous ne savez pas, n'est-ce pas?
Non, je ne sais pas.
Et maintenant?
Radik et moi, nous allons visiter les instituts de beauté, les salons de coiffure et les centres de manucure de Brooklyn et Williamsburg. Nous débarquons avec une photo et nous voyons si quelqu'un la reconnaît.
Comment ça se passe avec votre nouvel équipier?
C'est un type bien.
Différent du précédent?
Ils sont tous différents. Personne ne se ressemble.
Le précédent est mort, n'est-ce pas?
Oui, il est mort.